Chapitre 19 Le Lotus Blanc. Le jour venait à peine de paraître lorsque la Varède fut tirée de son sommeil par l'entrée processionnelle de Chunse, suivie de son greffier, de Diamba et d'un personnage à uniforme bleu et vert spécial aux agents de la police. Il s'assit sur son lit et considéra les visiteurs. Le directeur s'épongeait le front, Diamba baissait ses paupières rougies par les larmes, le greffier et l'agent demeuraient impassibles. La petite chinoise annonça au prisonnier qu'il allait être transféré à Pékin pour y être exécuté et que Formiquen, policier estimé, l'escorterait. Le voyageur accueillit d'abord la nouvelle avec satisfaction. La prison lui pesait, mais quand descendu dans la cour, on lui eut pris le col et les poignets dans les planches de la cangue, il commença à penser que le changement n'est pas toujours une amélioration. Ditoas, ou policier, était préposé à sa garde. Après des adieux amicaux à Chunse et à la pauvre Diamba tout éplorée, les portes de la prison s'ouvrirent et le cortège se mit en marche. Le guide Formiquen remonta le fleuve. Bientôt la petite troupe sortit de la ville et s'engagea dans la campagne. Des paysans faisaient la récolte de maïs et du sorgho, et, dépouillés de sa parure de plantes, la terre apparaissait d'un jaune doré particulier à ces contrées. Vers 10 heures, on s'arrêta dans un petit village où les hommes de l'escorte prirent leur repas. Très fatigué et meurtri par le contact du bois de la cangue, la marraine s'était assis en tailleur de façon que la portion inférieure du hideux instrument portât sur le sol, ce qui soulageait momentanément son cou endolori. Il était seul. Un des policiers s'approcha de lui, tenant sous son bras des planches que le journaliste jugea devoir former un autre carcan. Le nouveau venu mit un doigt sur ses lèvres pour recommander le silence au prisonnier et avec une habileté merveilleuse, il le débarrassa de la cangue qu'il remplaça par celle dont il était chargé. À sa grande surprise, Armand aperçut que la seconde était beaucoup plus légère. En outre, le tranchant du bois s'appuyant sur le cou était garni d'un bourrelet de crin qui amortissait la douleur du contact. Son opération terminée, l'agent entr'ouvrit sa tunique et mit sa poitrine à nu. Du geste, il désigna une fleur de lotus tatouée sur la peau et s'éloigna précipitamment. Le Parisien eut un sourire, encore un qui le prenait pour un franc-maçon et le soulageait dans la mesure de ses moyens. Après la sieste, on se remit en marche. Le soir, à 9 heures, le détachement entra dans la ville de Tiancheng, mollement couché au bord du Peiyo. Après quelques détours dans les ruelles, il traversa le pont de marbre orné de 12 figures géantes de Bouddha qui réunit les deux quartiers de la ville et il gagna une maison de police située sur la rive gauche. La marraine fut enfermée dans une cellule assez spacieuse où on le dépouilla de la cangue. Cette parure du supplice était réservée pour la promenade en public. Le jeune homme s'étira. Malgré la substitution opérée à la première halte, il souffrait d'un violent torticolis. Ses poignets étaient gonflés et douloureux. Oh, « Encore 4 jours de marche, grommela-t-il, je serai gentil en arrivant. » La porte s'ouvrit à ce moment et le policier à la fleur de lotus se glissa dans la cellule. Il tenait à la main une boîte remplie d'une pommade rougeâtre. « Zwing Mao !» dit-il à voix basse. Et comme le prisonnier le regardait sans comprendre, il répéta un peu plus haut « Zwing Mao !» Un souvenir traversa l'esprit du journaliste. Il se rappela un épisode du récit de Marco Polo, vivant à la cour de Kubilai Khan, où le célèbre voyageur raconte que les condamnés dans les bagnes obtiennent quelques jours de repos en se frottant l'épiderme de Zwegmao. Cette préparation, dit Marco Polo, rend les chairs violacées, les couvre de pustules et leur donne l'apparence de l'inflammation la plus aiguë. Apparence seulement, car celui qui fait usage du Zwegmao n'éprouve aucune gêne. Le policier montra la boîte, puis les pieds de la varède. Celui-ci comprit. Le truc, vieux de tant de siècles, servait encore. Dans ce monde chinois, stagnant au milieu des peuples courant au progrès, tout est éternel, les trucs comme les usages, les idées comme les erreurs. Il fit une action de grâce à la routine. Lui, le Parisien avide de demain, pour qui la vapeur était trop lente, il admira le char immobilisé par l'ornière. Pour prouver à son protecteur qu'il avait saisi sa pensée, il se déchaussa et enduisit sa chair de pommade. L'agent parut satisfait et se retira. Au matin, lorsqu'on vint le chercher pour continuer sa route, Armand montra au thorax ses pieds gonflés, marbrés de plaques rouges. Ceux-ci hochèrent la tête et allèrent prendre les ordres de leur chef. Une demi-heure plus tard, Armand était emporté sur une civière et conduit ainsi à bord d'une jonque au fond de laquelle il fut commodément installé. Après quoi, les bateliers déployèrent les voiles de paille tressées et, poussés par un bon vent, l'embarcation remonta le cours du Peiyou. C'est ainsi que le prisonnier effectua son voyage qui eût été charmant sans l'inquiétude de la faim. Cependant, avec sa mobilité d'esprit habituelle, Armand s'intéressa au paysage. Il admira les nombreux canaux naturels qui réunissent le lac Amillo au fleuve. Il eut un véritable plaisir à voir défiler les monuments, les palais, les pagodes de Tianjin, ville d'un million d'habitants, capitale de la province de Pechili. Il se remémora que Pékin, cité administrative et résidence de l'empereur, est seulement chef-lieu d'un département de cette province, le département de Chuntien. Il regretta fort que les troupes anglo-françaises ne fussent plus en cet endroit où, en 1860, la guerre contre la Chine fut close par un traité qui ouvrait les villes du littoral aux Européens. « Ah, comme on m'aurait tiré les mains de ces drôles » murmura-t-il. Puis sa robuste confiance en lui reprenant le dessus. « Oh, j'en sortirai bien tout de même !» conclut le vaillant jeune homme. On passa la nuit à Lamin, un peu au-delà de Tianjin. Le lendemain, la jonque conduisit l'escorte jusqu'à Baknou, petit bourg qui sert de comptoir à l'importante cité de Pao Ti. Enfin, au déclin du troisième jour, on aborda à Tung Cheu. Les voyageurs devaient parcourir par terre les 18 kilomètres qui les séparent encore de Pékin. Dans une chaise à porteur grossière, réquisitionnée par le chef de l'escorte, Armand fut enfermé, puis, malgré leur avancée, toute la troupe se mit en marche. Il était environ minuit quand la varède fit son entrée dans la capitale officielle. « Ah, oh, pensa-t-il, nous arrivons, je ne serai pas fâché de dormir. » Ce souhait ne devait être exaucé qu'après 2 heures de promenade dans cette cité. Les rues désertes à ce moment de la nuit, bordées de murailles de briques servant de clôture au jardin qui entoure toutes les maisons de la ville impériale, avaient un aspect lugubre. À chacune de leurs extrémités, des chaînes tendues arrêtaient la marche des policiers qui devaient les détacher puis les replacer avant de poursuivre leur route. Plusieurs fois, des agents de police vinrent reconnaître les voyageurs. Ils annonçaient de loin leur présence en frappant à coups redoublés un cylindre de bois dont ses fonctionnaires sont munis. Après un colloque de quelques instants, il se retirait. C'est ainsi que la Varenne traversa lentement la ville chinoise et atteignit la large voie qui borde la muraille de la ville intérieure ou impériale. La rue de la Tranquillité, Chang'an-Kini, tel est le nom de cette avenue, d'où l'on aperçoit au-delà du mur qui scint les habitants du Fils du Ciel et de sa cour, des toits recouverts de tuiles jaunes ou rouges, suivant qu'ils abritent les membres de la famille impériale ou de simples seigneurs. Les tuiles grises sont l'apanage des maisons particulières. Devant l'une des trois portes qui relient la Qingchong, cité de la cour, à la Weichung, ville des sujets, les policiers se prosternèrent. C'était la Niangtingmen, ou porte de la paix, par laquelle entrèrent les alliés en 1860. Enfin, le véhicule où le prisonnier s'impatientait pénétra sous une voûte noire et s'arrêta. On était arrivé. Après quelques formalités de greffe, la Varenne conduit dans un cachot sombre pour s'étendre sur les planches servant de couchette et s'endormir profondément. Un choc le réveilla. On eût dit qu'on lui avait porté un coup à la jambe. Il allongea le bras instinctivement. Sa main rencontra une main. « Qui est là ? » demanda-t-il le nom sans quelque émotion. « Un Français ! » s'écria une voix avec une inflexion joyeuse. « Deux, si j'en juge à votre langage. « Oui, deux, mais qui êtes-vous ? » « Prisonnier, et vous ? » ?»« Prisonnier aussi, et prêtre catholique. » Lassé du voyage, Armand, dans l'obscurité, ne s'était pas aperçu que son cachot contenait déjà un habitant, et celui-ci dormait, ainsi qu'il l'expliqua au voyageur. Il lui dit son histoire. Missionnaire persécuté par les autorités chinoises, arrêté sans motif après que les affiliés du Lotus Blanc, dans un jour d'émeute, eurent brûlé sa mission et massacré ses compagnons, on l'avait conduit dans cette prison où l'on paraissait l'oublier. Et comme Armand s'indignait, le prêtre murmura doucement « Presque tous nous finissons ainsi, mais les récriminations seraient injustifiées. En venant en Chine, nous savons à quoi nous nous exposons, et nous pardonnons d'avance. Les pauvres gens ne savent pas ce qu'ils font. Croiriez-vous que les lettrés eux-mêmes nous accusent de recueillir les enfants, non pour les élever, mais pour les tuer et empouiller leur corps à des opérations magiques? Leurs yeux, notamment, nous servent, au dire des mandarins, à fabriquer la collodion pour la photographie. C'est insensé, n'est-ce pas, mais cette ignorance qui nous condamne est moins pénible pour moi que la désunion des nations d'Europe. Des écrivains civilisés n'ont pas craint d'appuyer les actes de sauvagerie commis par la foule avec le concours tacite des fonctionnaires. Oh, s'écria la Varenne, pas des journalistes français, je suppose. Oh, loin de là, on en a écrit que les massacres étaient uniquement dirigés contre les Français et les catholiques, et j'ai en poche une copie de la proclamation qui fut affiché dans le Hunan quelques jours avant l'attaque de notre mission. Voici ce qu'elle contient. Incendions les demeures et les temples des étrangers, arrachons le christianisme jusqu'à la racine, punissons les traîtres chinois qui ont embrassé cette religion, bannissons leurs familles en Amérique, l'Allemagne est avec nous. Un silence suivit ces paroles. Le missionnaire le rompit le premier. « Laissons ce sujet sombre, Dieu a son but en permettant ces crimes. Parlons de vous, et si ma question n'est pas indiscrète, apprenez-moi quelles fâcheuses circonstances vous ont amené dans cet enfer. Pour raconter son odyssée, Armand retrouvait sa belle humeur. Le prêtre l'écouta avec attention, et quand il eut fini, « Les sociétés secrètes vous protègent visiblement, dit-il. La substitution de Kang, le voyage en jonc le prouve. Peut-être serez-vous sauvé, ce que je souhaite, car la France a besoin d'hommes de cœur et d'esprit. » Faible espoir, je dois être exécuté demain, 22 octobre. Allons, prions Dieu, que le Shang-Yin-Sé et le Kin-Tien-Kien déclare le jour néfaste et interdise à l'empereur de sortir. Comment dites-vous cela? Ah, c'est juste, vous n'êtes pas en chinoisé, vous. Les assemblées que je viens de nommer sont les collèges des rites et des astronomes qui seuls peuvent autoriser les promenades du souverain. Quel rapport avec mon affaire? Ah! Si le chef de l'État demeurait enfermé dans la ville rouge, il y aurait peu de soldats au pont des larmes, lieu du supplice. Un coup de main serait facile. Tandis que, termina philosophiquement la Varenne, si l'empereur quitte son palais, il m'oblige à quitter la terre. Le système des compensations, ô Azaïs. Bien que prononcé d'un ton léger, ces paroles assombrirent les deux hommes et pendant longtemps, ils cessèrent de converser. Lentement, les heures de la journée tombèrent du sablier de l'éternité. La seule distraction d'Armand fut d'être conduit devant un mandarin qui, avec une politesse cruelle, l'informa que le lendemain, il partirait pour le pays des ancêtres, la tête séparée du corps. Et à ce prisonnier qu'il considérait déjà comme mort, le fonctionnaire ne cacha point sa haine pour les hommes d'Europe. « Je voudrais, lui dit-il, que tous ceux de ta race fussent entre mes mains afin de broyer à la fois tous les ennemis de mon pays. » Sur ces paroles encourageantes, on ramena le journaliste à la prison. Il éprouvait une grande lassitude. Le découragement pesait sur lui. Le trépas en lui-même ne l'effrayait pas, et cependant, sa poitrine était comprimée par l'angoisse. Faisant bon marché de sa vie, il regrettait son doux rêve. L'éclair bleuâtre du sabre du bourreau allait le séparer à jamais d'Aurette. La nuit, il dormit mal, souvent réveillé en sursaut par des bruits imaginaires, et le matin, quand on vint le chercher pour marcher au supplice, il était brisé. Ses membres raidis par la courbature lui refusaient presque le service. Il embrassa le missionnaire, qui lui glissa à l'oreille des paroles d'espoir. L'empereur ne sortira peut-être pas. « Ayez foi en Dieu, mon enfant, mon frère. » Puis il suivit les policiers chargés de le mener au bourreau. On quitta la prison. Dans la rue, Armand comprit qu'il était perdu. Le maître absolu de 400 millions de Chinois allait parcourir la ville. Tout le prouvait, les maisons closes tendues de toiles blanches, le mouvement inusité des soldats, le carré d'étoffe que les passants portaient à la main afin de s'en couvrir la tête au passage de l'empereur, dont la vue interdite est punie de mort. Une idée folle vint aux Parisiens. Si je rencontre mon cher cousin dans l'autre monde, pensa-t-il, il sera bien heureux de m'avoir joué un pareil tour. Cependant, la Kangoku, la vraie cette fois, entourée de ses gardiens aux costumes bleus et verts, Armand marchait. Comme à travers un voile, il entrevit les portes de la soumission et de l'aurore. un instant la vue du lac Taichi, couvert de fleurs de lotus, reposa ses yeux. À mesure que l'on avançait, la foule devenait plus compacte. Des soldats réguliers, en uniforme bleu céleste, formaient la haie, maintenant un espace libre au milieu de la rue, repoussant les curieux contre les maisons. « Bah, ça !» murmura la Varenne. « Serait-ce ma présence qui émeut à ce point la ville ?» Mais en arrivant au canal qui sert de déversoir au lac Lien Kwoche, cette pensée vaniteuse s'évanouit. Devant lui s'ouvrait le pont des larmes, gardé militairement. Sur la rive opposée s'étendait une vaste place dont un des angles était isolé par une palissade. Au-dessus de la clôture se balançait un énorme objet jaunâtre, allongé en forme de cigare. On eût dit un monstre marin. Mais Armand ne s'y trompa pas. Il reconnut d'emblée le ballon dirigeable. Des guerriers mandchous, aux vêtements multicolores, aux armes luxueusement ornées, eurent rangé autour de la place. À ce spectacle, le condamné oublia un instant sa situation, mais une fois le pont franchi, son escorte s'arrêtant brusquement, il fut rappelé au sentiment de la réalité. À sa droite, sur un plancher élevé, le bourreau de Pékin et ses aides, portant la tchépa bleue à larges manches, avec le dragon jaune brodé sur la poitrine, attendaient immobile le moment de travailler. Près d'eux, on apercevait le banc, sur lequel on étend le condamné à mort, et les cages de bois destinées à recevoir les têtes criminelles. Plusieurs déjà contenaient leur proie, et de voir ces visages exsangues grimaçant la mort à la foule, c'était lugubre. La Varenne pâlit, mais l'orgueil gaulois lui fit aussitôt redresser la tête. Puisque la mort était inévitable, il fallait l'accueillir gaiement, comme une amie attendue, et montrer au fils de Han comment on sait mourir, un Français. Sur l'ordre des toises de l'escorte, il s'assit sur le banc des suppliciés. Là, écrasé sous le poids de la cangue, les oreilles emplies de bourdonnements, il attendit que l'instant fatal eût sonné. Tout à coup, il tressaillit. Ses regards devinrent fixes. La ligne de soldats venait de s'ouvrir, et dans l'espace réservé, Miss Aurette avait paru, appuyée au bras de son père. La voile de la brouette gonflée par un vent favorable, les Anglais avaient quitté Takéou. L'esquif terrestre marchait bon train, et le coulis coréen trottait dans les brancards. Le soir du premier jour, ils atteignirent Tien-Sing, où le résident anglais, Sir Grewis, voulut absolument les garder à dîner. Cet homme aimable était enchanté de passer une soirée avec des compatriotes, et lorsqu'il apprit leur projet de gagner Pékin, sa joie devint du délire. Lui-même se rendait au fait dont le lancement du ballon dirigeable était le prétexte. Il se ferait un plaisir de donner à ses hôtes une place dans sa voiture, bon véhicule construit en Europe et ne ressemblant en rien au char primitif qui cabote les indigènes. Seulement, il ne crut pas devoir cacher à Sir Mulliton que la ville impériale serait particulièrement dangereuse. Les Chinois, lui dit-il, sont gens de routine. Notre compatriote, M. Hart, a fondé à Pékin une usine à gaz qu'il a dû fermer, faute de clientèle. Le docteur Gasper, cet Allemand aéronaute, l'a rouverte pour procéder au gonflement de son dirigeable. De là, grande effervescence dans le populaire. Les sociétés secrètes ne demandent que prétexte à des émeutes. Mais c'est précisément ce qui nous intéresse, déclara nettement Aurette. En ce cas, je ne retiens qu'une chose, le plaisir de voyager en bonne compagnie. Summerlyton congédia donc le coulis et sa brouette, non sans avoir versé au rusé coréen le prix contenu pour le voyage complet. Au lever du jour, ce dernier reprit le chemin de Takeu, à deux lis de Tianjing. L'homme se croisa avec un piéton qui paraissait de fort méchante humeur. C'était Bouvreuil. Moins heureux que les Anglais, il n'avait pu se procurer aucun moyen de transport. Il assista à leur départ, et tremblant de perdre leurs traces, il se décida à effectuer à pied les 135 kilomètres qui séparent Pékin de la mer. Au bout de 30 kilomètres, ou pour parler la langue du pays, 37 lis, il s'arrêta épuisé dans une bourgade. Au moment où il rencontra le coulis, il venait de se remettre en route, les pieds et les reins endoloris. Il lui semblait reconnaître le conducteur de la brouette. Il l'interrogea, comprit qu'il était libre, et séance tenante traîna avec lui, par geste, pour se faire conduire au bout de son voyage. Commerçant comme tous ses pareils, le Coréen ne se décida qu'à l'énoncer du prix exorbitant de 2 taels par jour. La somme acceptée, il fit diligence, et le 22 octobre au matin, Bouvreuil entra dans Pékin. Un peu défiguré, par exemple, dans sa hâte, le brouetteur avait versé son client à plusieurs reprises. Le nez enflé et le front bossué du propriétaire faisaient foi de la solidité des routes du Pechi. Depuis la veille, Merliton et sa fille étaient installés chez le collègue de chez Grewis. Adroitement, Aurette s'enquit de Lavarède. Sans pâlir, elle entendit le résident lui répondre que l'exécution aurait lieu à 10 heures du matin au pont des Larmes. Elle trouva même la force de sourire en remerciant son compatriote, mais elle ne dormit pas de la nuit. Les projets les plus insensés naissaient dans sa cervelle. Plus lentes à s'émouvoir, les femmes du Nord dépassent les méridionales en audace dans l'exécution de leurs conceptions. Le sens pratique qu'elles tiennent de race transforme leurs imaginations en réalité et tel l'acte de folle témérité qui, chez la Napolitaine ou l'Andalouse, restera à l'état de rêve. Sera exécutée par l'anglaise éprise. Et Aurette aimait de toute son âme, de toute sa jeunesse. À peine levée, elle détacha d'une panoplie un couteau affilé, s'assura que son revolver était en bon état, puis elle pénétra dans la chambre de son père. Le gentleman, tenu éveillé par une double inquiétude, était déjà prêt. Il regarda sa fille. Elle semblait calme, mais ses yeux bleus, luisant d'un éclat fiévreux, exprimaient une volonté froide, implacable. « Que voulez-vous faire, Aurette ?» demanda Merliton. « Allez où il est, mon père, » dit-elle seulement. L'Anglais hocha la tête, il sentait que la vie de sa fille se jouait en ce moment, mais, pris par une sorte de fatalisme, il ne résista pas. Il fit signe qu'il attendait le bon plaisir d'Aurette. Alors il y eut chez la pauvre enfant comme une détente. Elle vint à son père, l'embrassa longuement, puis, sans prononcer une parole, l'entraîna vers la porte. Dans la rue grouillait une population agitée. Le pont des Larmes est proche de la résidence. Bientôt, les Anglais atteignirent la place dont le milieu était isolé par une double haie de soldats. En arrière s'écrasait une foule épaisse, bruyante, bariolée, qui semblait tout au plaisir du spectacle attendu. Cependant, en y regardant de plus près, on eût vu que certains curieux échangeaient des signes rapides. Des regards ardents se fixaient sur les réguliers, et parfois, sous la blouse courte d'un passant, se montrait l'extrémité d'un poignard recourbé. Orette ne voyait rien. Elle se dirigeait vers l'angle de la place où se dressait le banc des suppliciés, sans souci des bousculades ni des récriminations. On avait murmuré d'abord, puis un mot avait circulé. « Lien quoi ?» répétaient les badauds en lui faisant place. « Lien quoi ? Lotus !» En effet, fiché dans son corsage, l'épingle qui déjà l'avait protégé à Takeu brillait au soleil. La rumeur arriva aux soldats. L'un d'eux étendit son sabre pour barrer le passage à la jeune fille, mais ses regards se portèrent sur la fleur de lotus et il abaissa son arme. Orette et son père pénétrèrent dans l'enceinte réservée. C'est à ce moment que Lavarède les aperçut. Comme la première, la seconde ligne de guerriers s'ouvrit devant eux. Ils atteignirent l'estrade, gravirent les trois marches y donnant accès, et passant devant les bourreaux stupéfaits, s'approchèrent du banc des suppliciés. On crut à une permission spéciale accordée à ces Européens. Armand s'était levé, Orette lui prit les mains dépassant la cangue, et se donnant tout entière avec la simplicité de celle qui aime, « Vous m'attendiez, n'est-ce pas ? » dit-elle. Il la considéra, hésitant à répondre, mais ses regards rencontrèrent les regards humides du gentleman, et ainsi qu'un torrent qui éventre ses digues, les paroles s'échappèrent pressées de ses lèvres. « Oui, je vous attendais comme au seuil de la nuit, on attend la lumière. Je vous attendais parce que... » Il s'arrêta, mais presque aussitôt il reprit une voix haletante. « Ici je puis parler, le bourreau me guette. L'adieu ne mesure point les termes, car il est la fin. Dans un instant, la bouche coupable sera close pour jamais. L'expiation et la faute se confondront presque. Je vous attendais parce que je vous aime. » Orette ferma les yeux. D'un jet, la rougeur envahit son visage. « Pardonnez-moi, » continua le malheureux, « vous aussi, Sir Merlitton. C'est déjà un mort qui vous parle, qu'à cette heure j'aime ou non, qu'importe. » La jeune fille répéta sourdement, « Qu'importe ?»« Oh, grommela Merlitton, c'était le bonheur de ma fille. » Et comme le journaliste interrogeait les yeux, Orette murmura si bas qu'Armand l'entendit à peine, « Moi aussi je vous aime. » Le visage du condamné se transfigura. Toutes les joies terrestres s'épanouirent sur ses traits. Tout à coup, il redevint sombre. Le bourreau est allé demander des ordres au commandant des soldats. Il revient pour nous séparer, et comme le guerrier Manchou frappé à mort, je ne puis que crier « Adieu, Linkoa, mon lotus blanc !» C'était un cri de douleur, de désespérance qu'exhalait le jeune homme. « Linkoa, Linkoa !» Un écho confus répétait ce mot, prononcé presque à mi-voix. Un sourd grondement partit de la foule attentive. Orette n'y prit pas garde. Elle s'était retournée et regardait le bourreau se rapprocher. Déjà, L'homme gravissait les marbres de l'estrade. C'était fini. L'heure des séparations violentes sonnait. Elle eut la vision épouvantable du supplice. Un flot de haine pour ce qui la condamnait au deuil lui monta au cerveau. Elle saisit le poignard arraché à la panoplie du résident, trancha les courroies de cuir reliant les différentes pièces de la cangue et tendant un revolver au Parisien délivré. « Au moins défendons-nous » cria-t-elle. D'instinct, Armand tira sur le bourreau qui l'abattit. Stupéfait de l'acte de sa fille, Merliton s'arma machinalement, et tous trois parurent menaçants, prêts au combat, dominant le peuple de la hauteur de l'estrade que les ailes épouvantées avaient laissé vide. Mais un phénomène étrange se produisit. Une houle agita le peuple. La ligne des gardiens fut disloquée. Un rugissement éclata dans l'air. « L'Iroquois !» Lavaret l'entendit, il comprit. « Le lotus blanc nous sauve !» Vers le pilori, une foule hurlante se ruait, renversant et tuant soldats et bourreaux. Armand et ses compagnons furent emportés comme par une marée humaine, et ils se trouvèrent sans savoir comment à deux pas du ballon du docteur Casper. Gonflé, prêt au départ, tendant ses amarres, l'appareil semblait impatient de s'élever. Il incitait à la fuite. D'un bond, Armand fut dans la nacelle, appelant ses compagnons. Ceux-ci les rejoignirent et se mirent avec lui à couper les cordages qui retenaient encore le dirigeable au sol. À ce moment, les réguliers mandchous, revenus de leur surprise et ramenés par leur mandarin, attaquaient les affiliés du Lotus Blanc, formant un rempart vivant aux fugitifs. Ceux-ci pliaient. Lavarède trancha le dernier lien et le ballon s'éleva lentement. « Sauvé !» s'écria le Parisien. Mais le mouvement ascensionnel de l'aérostat s'arrêta tout à coup. Les trois passagers s'entre-regardèrent. « Qui a-t-il donc ?»« Encore une amarre, sans doute. » Et se penchant au dehors, Armand tenta de voir ce qui entravait l'essor du ballon. Cramponné à l'ancre, appliqué au flanc de la nacelle, un homme retenait le navire aérien. C'était encore Bouvreuil. Arrivé le matin à Pékin, il avait assisté à toute la scène. Il avait suivi les fugitifs. Mais à l'idée d'être séparé d'eux, il perdit la tête et s'attacha désespérément à cette nacelle qui emportait le bien-aimé de Pénélope. D'un coup d'œil, Armand comprit le péril. Les réguliers, mieux armés, repoussaient lentement ses sauveurs. Déjà, les derniers rangs étaient refoulés à l'intérieur de l'enclos réservé à l'aérostat. Des cadavres nombreux jonchaient le sol et parmi eux, plus d'hommes du peuple que de soldats. Une minute d'hésitation pouvait tout remettre en cause. Le jeune homme regarda autour de lui. Une grande caisse occupait le fond de la nacelle. Quel était son contenu? Des armes, des provisions de bouche. Sans doute, car le docteur Casper avait annoncé que son appareil demeurerait plusieurs jours dans les airs. D'un effort surhumain, Lavarède souleva l'énorme colis et le précipita sur la terre. Subitement délesté, le ballon fit un bond de 300 pieds et, saisi par un courant, il fila vers le sud-sud-est, tandis que la bataille continuait furieuse près du pont des Larmes. Chapitre 20. La Chine à vol d'oiseau. Bouvreuil avait poussé un hurlement d'épouvante lors de la brusque ascension de l'aérostat. D'instinct, ses mains s'étaient cribées sur l'ancre et maintenant il demeurait suspendu dans le vide, le visage convulsé par la crainte d'une chute vertigineuse. Par humanité, l'avarède aidé de Sir Marleton hissa le malheureux à bord de la nacelle, où l'usurier évita une explication désagréable en perdant connaissance. On le laissa se remettre sans plus s'occuper de lui. Au surplus, il y avait entre les passagers une gêne visible. Avec le sentiment de la sécurité, le calme était rentré dans l'esprit d'Orette. Son exaltation tombée, la jeune fille rougissait en songeant aux aveux échangés près du pont des larmes. De son côté, Armand, désireux de ne pas abuser de la situation, évitait de lui adresser la parole et, pour se donner une contenance, il prenait très sérieusement des notes. Pékin, écrivait-il, a à peu près la même circonférence que Paris, 36 kilomètres au lieu de 32, mais comme chacune de ces maisons abrite une seule famille et est entourée d'un jardin spacieux, sa population ne doit pas excéder 600 000 âmes. La préoccupation du journaliste ne nuisait en rien à la rectitude de son jugement. Son évaluation était plus près de la vérité que celle des voyageurs, portant de 1 à 3 millions le nombre des Chinois qui habitent la ville impériale. Cependant, ce petit travail l'ennuya bientôt. Il s'accouda sur le rebord de la nacelle et regarda le paysage défiler sous ses pieds. Le vent avait fraîchi et le ballon, lancé à la vitesse d'un express, franchissait les collines, les villages, les cours d'eau, laissant à peine aux touristes le temps de les reconnaître. À l'aide d'une excellente carte et d'une boussole trouvées à bord, l'avarède se rendit pourtant compte du chemin parcouru. Il aperçut Tientsing à l'est, nota au passage le Peiyo, puis le canal impérial qui relie ce fleuve au Huangho et au Yangtze-Kiang, et sur lequel est jeté le fameux pont de Palikao, où en 1860, les tigres, guerriers chinois, furent écrasés par l'artillerie franco-anglaise. Cette distraction épuisée, le Parisien fit l'inventaire des objets contenus dans la nacelle. C'étaient des instruments de physique, la boussole dont il s'était déjà servi, des baromètres, thermomètres, horomètres, des vêtements, plus un certain nombre de boutons et de fils électriques destinés sans doute à la manœuvre de l'aérostat, mais auquel, dans son ignorance de la construction de l'appareil, il jugea prudent de ne pas toucher. Du reste, une constatation désolante résultait de son examen. Les vivres manquaient totalement. Il fallait faire part de la situation à ses amis et surtout chasser la contrainte qui existait entre eux. Ce n'était pas au moment où chacun allait peut-être avoir besoin de toute son énergie que l'on devait donner carrière à de vains préjugés. Armand se décida à s'expliquer franchement. Orette était assise auprès de son père à une des extrémités de la nacelle. Tous deux semblaient absorbés par la contemplation du paysage. L'avarède se rapprocha d'eux. « Sir Marleton, dit-il, et vous, chère miss, écoutez-moi. » Son ton grave les impressionna, ils l'interrogèrent du regard. Je suis contraint d'abord d'aborder un sujet délicat. Ce matin, à un instant suprême, nous avons échangé des paroles, et comme l'anglaise esquissait un geste pudique, « Oh, non, rassurez-vous, je ne prétends point en tirer avantage. À notre retour à Paris, je m'en souviendrai, avec votre permission, mais jusque-là, nous sommes adversaires, et seul le ton du défi convient. » Le gentleman sourit. Orette inclina la tête. Armand poursuivit. Actuellement, notre intérêt est le même. Nous sommes captifs dans un ballon qui plane au-dessus d'une terre inhospitalière dont l'abord nous est interdit. Vous n'ignorez pas les sentiments des populations à l'égard des Européens. Dans le pays de Chili, cela va encore, mais ici nous n'avons quitté les territoires fleuris de lotus blanc. Les maîtres du pays sont les sectaires de la société du frère aîné, les plus sanguinaires de tous. Et si nous tombions entre leurs mains... Un crépitement interrompit le jeune homme. Il se retourna. Derrière lui, il vit la face blême de Bouvreuil. Son évanouissement dissipé, le père de Pénélope s'était à côté au fond de la nacelle. Il avait tout entendu et ses dents claquaient de terreur. Telle était la cause du bruit perçu par les voyageurs. Armand haussa les épaules et revenant à ses amis. « Maintenant, deux solutions s'offrent à nous. Si le vent se maintient, nous arriverons dans la nuit à Shanghai, ville maritime très européanisée, et alors nous sommes tirés d'affaire. Sinon, nous flotterons au-dessus de contrées abordables. »« Bof !» répliqua légèrement Aurette. « Cet aérostat est construit de telle sorte qu'il peut demeurer plusieurs jours dans l'atmosphère. M. Globis me l'a dit, du moins. »« Soit, mais nous n'y pourrons pas demeurer. »« Pourquoi cela ?»« Mais parce que la caisse dont j'ai dû me débarrasser au départ contenait les vivres et que nous n'avons plus un atome de nourriture. » Sans parler... L'anglais montra sa gourde, remplie la veille à l'hôtel. Cela pouvait soutenir pour un jour, mais pas nourrir. Les visages s'assombrirent. L'idée de la mort possible par la faim, en vue de riches campagnes, dont le fanatisme défendait l'approche, n'était pas réjouissante. Et Bouvreuil exprima l'idée générale en gémissant. « Oh, il manquait plus que cela, périr d'inanition !» La voix de son ennemi rendit sa gaieté aux Parisiens. « Ah non, mon cher monsieur, vous ne périrez pas d'inanition. Vous me rappelez heureusement votre présence. Plus de vivres, disais-je, mais je me trompais, vous êtes là. »« Comment je suis là ?» demanda l'usurier interloqué. « Ben, envoyé par le ciel, mon bon monsieur Bouvreuil, pour sauver du trépas trois chrétiens dans l'embarras. » Et s'adressant à Aurette, sur les lèvres de qui reparaissait le sourire, « Rassurez-vous, mademoiselle, cet excellent homme nous fournira bien 50 kilos de chair, un peu coriace, sans doute, mais dans notre situation, nous ne devons pas être trop exigeants sur la qualité. » Le père de Pénélope bondit sur ses pieds. « Oh, ça !» cria-t-il d'une voix étranglée. « Est-ce que vous voudriez me manger ?» Le plus tranquillement du monde, Armand répliqua. « Parfaitement, monsieur Bouvreuil. » Il interrompit l'usurier qui allait protester. « Mais vous n'êtes pas un passager régulier ici, mais un intrus. De plus, si je vous avais laissé en dehors de la nacelle, vous seriez tombé au bout de quelques minutes. Je vous ai sauvé la vie, donc elle m'appartient, et le cas échéant, je n'hésiterai pas à reprendre ce que je vous ai conservé. » « Mais c'est pas possible !» clama désespérément Bouvreuil. « Cela ne se fait pas, c'est de la sauvagerie !»« Non, c'est de la faim, mon brave monsieur. Après tout, n'accusez que vous-même. Nous ne vous avons pas invité à prendre passage sur la nacelle de la Méduse. » Aurette et Mirliton avaient peine à contenir leur envie de rire. Au fond, ils admiraient le journaliste, auquel l'inquiétude n'enlevait pas l'amour si parisien de la blague. Mais le propriétaire ne s'amusait pas, lui. À ce nom fatal de la Méduse, évoquant le souvenir du radeau populaire peuplé d'anthropophages, il sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Il promena autour de lui un regard effaré. Ah, qu'il aurait donc voulu s'en aller. Une chose cependant aurait dû le rassurer. Loin de tomber, le vent devenait de plus en plus fort. L'aérostat laissait derrière lui l'importante cité de Tsinan, qui arrosait autrefois le Huanghe et que le changement de lit du fleuve capricieux n'a pu faire déchoir. À l'horizon, le vaste lac de Kaifeng, trois fois plus étendu que le lac de Genève, étalait la nappe bleue de ses eaux. Bien que l'heure du repas sonnât dans tous les estomacs, personne ne se plaignit. Le visage de Bouvreuil passa seulement du blanc au vert. L'usurier s'épouvantait d'avoir faim. « Chaque tiraillement que j'éprouve, se disait-il, doit être partagé par les autres et rapproche le moment où la varède m'égorgera. » Il ne l'appelait plus son gendre maintenant, et il maudissait le caprice de Pénélope. « Oh, l'on aurait épousé un autre, voilà tout. Il y en a de plus beaux que lui. Et au moins je serais tranquille au coin de mon feu, au lieu d'être ballotté entre ciel et terre avec la perspective d'être dévoré par ce sauvage. » Tout à coup, il eut une inspiration. « Je suis sauvé, » fit-il. « Faisons un sacrifice. » Et s'adressant à la varède, « Monsieur, je ne suis pas un convive de trop, comme vous le croyez. Vous n'avez rien à manger, et le hasard veut que j'ai dans ma poche le gâteau que voici acheté ce matin à un marchand ambulant dans la foule. C'est un devoir d'humanité de partager avec vous. » Il tendait en parlant une galette de manioc et de riz. Armand la soupesa. « Quatre parts, une goutte de rhum, c'est deux jours encore à vivre. »« Bouvreuil, » fit-il majestueusement, « je vous fais grâce pour 48 heures. »« Bon, » pensa l'homme d'affaires, « qui à terme ne doit rien. » Chinara, Yongwe, Baitsem, Vainliang défilèrent sous les yeux des voyageurs. À la nuit, Armand reconnut les marais de Kenshao, où le canal impérial coupe le delta du Huanghao. Mais le ciel s'était couvert. Sous la poussée du vent, ils continuaient leur voyage dans le vide noir. Tous se sentaient émus. Privés de points de repère pour juger du chemin parcouru, il leur semblait que le ballon s'était subitement immobilisé au centre d'une sphère d'ombre. Nul ne dormit. Les yeux fixés dans la direction de la terre, ils cherchaient vainement à surprendre une lueur. Un moment, ils entrevirent de nombreux points lumineux. Sir Marleton consulta sa montre. Il était 2 heures du matin. « Oh, nous planons, probablement au-dessus de Chinkiang, » déclara la varède. « Avant 1 heure, nous devons être à Shanghai. » Mais Howard fit un mouvement. « Écoutez, » dit-elle. Armand prêta l'oreille et poussa une exclamation inquiète. D'en bas, là où devait être la terre, montait un clapotement régulier. « C'est le bruit de la mer !» murmura le gentleman, comme effrayé de ses propres paroles. Soudain, un déchirement strident vibra dans l'air. L'éblouissante ligne brisée d'un éclair fendit la nue, et à sa clarté fugitive, les aéronautes aperçurent au-dessous d'eux des vagues échevelées montant les unes sur les autres dans un élan furieux, comme pour escalader le ciel. « Oh, nous sommes entraînés au large !» rugit Armand. « Coûte que coûte, il faut monter et trouver le courant inverse pour revenir à terre. L'observation était juste. Chaque fois qu'un vent s'élève, le déplacement des couches atmosphériques et leur densité différente déterminent l'établissement d'un courant de direction opposée. Le tout était d'arriver assez haut pour atteindre le point où se produisait sûrement le phénomène. En un instant, la nacelle fut au pillage. Tout le monde avait compris. Bouvreuil lui-même se mettait de la partie. Effaré, affolé, le propriétaire saisissait tout ce qui se trouvait à sa portée et le précipitait dans le vide. À grand-peine, l'avarède put lui arracher la boussole qui servait de guide à leurs marches aériennes. Délesté, le ballon montait, montait. Il entrait dans la région des nuages. Au milieu d'une brume épaisse, sillonnée d'éclairs, étourdi par des détonations dont aucune artillerie humaine ne saurait donner l'idée, Armand constata que l'aérostat demeurait immobile en plein centre électrique de la tempête. Sur les cordages couraient des flammes bleuâtres et la pluie qui frappait le taffetas de l'enveloppe rejaillissait en éclaboussures de feu. À chaque seconde, on risquait d'être foudroyé. À tout prix, il importait de fuir ce point particulièrement dangereux. « Délestez encore !» ordonna le jeune homme d'une voix rauque. Sir Merleton répondit « Il n'y a plus rien !»« Plus rien ?» Le Parisien regarda Aurette. Il la vit pâle, les yeux agrandis par l'épouvante, cramponné des deux mains à une corde. Plus rien, mais c'était la mort pour elle. Non, non, jamais il la sauverait. D'un mouvement rapide, il enjamba le bord de la nacelle. Mais l'Anglaise avait compris, d'un bond, elle fut auprès de lui et le retenant. « Ensemble ou pas ? » dit-elle simplement. « Tous les trois, alors » fit-on près d'eux. Ils tressaillirent. Sir Merleton, aussi calme que s'il se fût trouvé dans un salon, était là. « Qu'en pensez-vous » ajouta-t-il paisiblement. L'avarède eut un regard désespéré, mais ses yeux rencontrèrent Bouvreuil. Il alla à lui, le saisit au collet et lui cria. « Sautez, monsieur Bouvreuil ! Le salut commun l'exige !» Il le secouait, le poussant vers le bord de la nacelle. Éperdu, le propriétaire ne put répondre, mais son attitude parlait pour lui. Il se cramponnait aux parois, toute son énergie concentrée sur cette seule pensée, ne pas être jeté dans le vide. À cette minute décisive, il laissa échapper un cri de joie. « Pas encore sauté ! Le plancher ! Quel plancher ! Ben voyez-vous-même !» Armand se baissa, et à son tour il éprouva un plaisir intense. Sur le fond d'osier de la nacelle, un plancher volant était posé, supportant les banquettes. Plus vite qu'il ne peut être pensé, le plancher fut tiré de son alvéole et jeté par-dessus bord. Une secousse ébranla l'aérostat et il s'élança au-dessus de la zone orageuse. Maintenant, les aéronautes involontaires dominaient la tempête. Ils regardaient en bas, les nuages se ruaient les uns sur les autres dans un assourdissant fracas. Autour d'eux, l'air était calme, sans une brise. Mais comme ils s'oubliaient dans la contemplation du spectacle sublime que leur donnait l'ouragan, il se produisit comme un choc violent. Tous furent précipités pêle-mêle au fond de la nacelle, et l'aérostat, rencontré par le courant d'air de réaction, fut emporté vers l'ouest à une rapidité vertigineuse, incalculable, pendant un temps dont ils ne purent se rendre compte. Aucun des voyageurs n'eut le temps de se relever. Une sorte de torpeur les clouait à leur place. Les yeux clos, pénétrés par un froid terrible, ils demeuraient immobiles. Leur respiration était haletante, l'air semblait manquer à leurs poumons. Ils n'avaient pas la force de porter à leurs lèvres la gourde où presque plus rien ne restait. « Ah !» bégaya la marraine, reconnaissant à ses symptômes le mal des hauteurs. « Nous sommes au moins à 6 000 mètres d'altitude !» Il s'agita, essayant de vaincre son engourdissement, mais il retomba inerte à côté de ses compagnons. Tous semblaient morts. Pâles, rigides, des gouttelettes de sang pendant aux narines et aux oreilles, ils restaient couchés, évanouis, au fond de la nacelle, qu'une irrésistible puissance entraînait vers l'Asie centrale. Le jour succéda à la nuit sans qu'ils fissent un mouvement. De nouveau l'ombre s'épandit sur la terre, alors un frémissement parcourut les passagers du ballon, leurs paupières se rouvrirent, et des voix faibles demandèrent « Où sommes-nous ?» « Je n'en sais rien, » déclara le jeune homme qui avait réussi à s'asseoir, « mais sûrement nous descendons. »« À quoi voyez-vous cela ?»« À ce que nous respirons plus aisément. Nous sommes en état de parler. » Sermeleton l'approuva. « Très juste !» Il avait pris sa fille dans ses bras et cherchait à la réchauffer. Ce fut elle qui but les dernières gouttes du cordial sous l'envieux regard de Bouvreuil. Mais le danger de périr de froid évité, un autre se présentait. Vers quelle contrée la tempête allait-elle entraîner l'aérostat? Quel accueil attendaient les voyageurs à la surface du globe? Point d'interrogation qui se dressait menaçant. En vain la varède cherchait à percer le voile d'ombre qui emprisonnait l'appareil. Aucun indice n'annonçait l'approche de la terre, et cependant, d'une seconde à l'autre, un rocher, un arbre pouvait se dresser sur la route, suivi par le ballon, éventrer son enveloppe et transformer la descente en une chute mortelle. Enfin, le soleil parut sur un horizon de haute montagne. L'Anglais adressa un regard questionneur à Armand. Celui-ci haussa les épaules. Partout, de tous côtés, aussi loin que se portait la vue, c'était un chaos de granit. Les pics couronnés de glace succédaient aux pics, les rochers s'entassaient. Tout attestait que ce point de la sphère terrestre avait été le théâtre d'une des plus effroyables convulsions de la vie de la planète. Le ballon descendait lentement dans une vallée aux pentes couvertes de sapins, fermée par un lac dont la rive opposée était masquée par de hautes falaises. Des glaciers reflétaient la lumière du soleil et jetaient un manteau éblouissant sur la croupe des montagnes. Mais les rocs géants, le panorama sévère et grandiose, s'effacèrent lorsqu'Aurette dit d'une voix concentrée « Des hommes !» Dans la vallée, plusieurs centaines d'indigènes, les nez en l'air, suivaient tous les mouvements du ballon. Vêtus de longues robes sur lesquelles étaient jetées des casaques à larges manches, coiffés de bonnets fourrés, ces gens se montraient l'aérostat avec force gestes. À chaque minute, de nouveaux curieux venaient grossir la foule. Le ballon descendait toujours. Il n'était plus qu'à 300 mètres du sol. « Ce n'est pas possible !» murmura la varède, qui considérait avec attention les singuliers personnages. Les Anglais et le père de Pénélope lui-même l'interrogèrent. « Mais qu'est-ce qui n'est pas possible ? C'est une ressemblance fortuite. Mais quelle ressemblance! Armand secoua la tête. Ben, je me figure cela, mais c'est invraisemblable. Nous aurions donc traversé la Chine de l'est à l'ouest pendant la tourmente. Ah, ça! S'exclama le gentleman avec une pointe d'impatience. Vous expliquerez-vous? Volontiers. Vous savez que Gabriel Bombalo, l'illustre explorateur, accompagné du missionnaire Deken, du prince Henri d'Orléans et guidé par un fils du roi Tekkes, du nom de Ahmed, a traversé les hauts plateaux du Tibet. Oui, déclara Miss Olette, j'ai lu la relation de ce voyage dans le désert glacé à 4 ou 5 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, comme disent les géographes. Vous avez lu cela dans mon journal, continua le Parisien. Eh bien, cette relation était illustrée de photographies prises par le prince. L'une représentait un groupe de mandarins de Lhasa, la capitale du pays. Bien, et il me semble que je les reconnais. Une salve de mousqueterie interrompit la conversation et ramena l'attention des aéronautes sur la terre. Les curieux se livraient à de grandes démonstrations de joie, tendant les mains vers la nacelle avec des cris prolongés que répétaient les échos de la terre. Quelques-uns, armés de fusils, les déchargeaient en l'air sans cesser de gambader. Orette avait eu un mouvement d'effroi. « Oh, rassurez-vous !» s'empressa de dire le journaliste. « Les dispositions de ces braves gens paraissent excellentes. Ici, comme en Afrique, on fait parler la poudre pour honorer les hôtes que le hasard envoie. Tout cela est du meilleur augure. » Et, hasarda Bouvreuil, « ils sont pas anthropophages ?»« Non, monsieur Bouvreuil. » Ces Tibétains, je crois décidément qu'ils ne le sont, se nourrissent, comme tous les pasteurs, de la chair de leur bétier, le mouton, le yak, ce bœuf à queue de cheval, qui est à la fois bête de somme et animal comestible. Ils n'ont pas encore élevé les propriétaires à ce dernier grade. L'usurier ne releva point l'ironie. La peur écartée, il sentait la faim. Il y avait plus de 50 heures que ses compagnons et lui étaient privés de toute nourriture. « Vous pensez que ces Tibétains nous donneront à manger ? » fit-il seulement. Oh, « c'est certain. À ce propos, un conseil. Si vous tenez à votre précieuse existence, mangez peu. Après le jeûne que nous venons de subir, la moindre indigestion serait mortelle. » À ce moment, le vent étant complètement tombé, la nacelle touchait mollement le gazon qui tapissait la vallée.